nous avons tout raté. Et au moment où nous serons devant le Seigneur, il nous dira, j'étais malade, j'ai eu faim, j'ai eu soif, tu es venu vers moi. Si nous manquons ça, nous manquons 99%. Car l'amour est fait pour être donné. Alors nous allons lire ensemble dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 1er. Et verset 3. Un texte magnifique qu'il faut bien intégrer dans sa foi, sa connaissance de ce qu'est la vie chrétienne. Vous m'entendez bien, tout le monde ? Ça va ? 2 Corinthiens 1, chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si nous avons part aux souffrances, si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Amen. Si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Bénis ta parole, Seigneur, elle est d'abord ta parole. Et elle est totalement pour nous, pourvu que nous la mettions en pratique dans tout ce qu'elle nous révèle, au nom de Jésus. Amen. Nous avons traversé cette semaine un grand chagrin. Les premières églises connaissaient également des chagrins, des souffrances. Elle n'était pas épargnée dans une bulle où tout doit être parfait. On est dans un monde en souffrance. Je pense à Étienne, le diacre de la première église, qui a été mis à mort et qui, disons-le, n'a pas été défendu. Personne ne s'est précipité pour protéger Étienne, qui était lapidé. Je pense à Jacques, l'apôtre, qui a exercé son ministère quelques mois, d'un mystère, et qui a été tué par Hérode. L'apôtre Pierre dit que des souffrances sont imposées aux chrétiens dans le monde entier. Des souffrances, d'abord parce que nous sommes porteurs du Christ, mais aussi souffrance parce que nous portons aussi le monde. Nous sommes dans le monde, faits de la même pâte que le monde. La foi chrétienne, ce n'est pas dire « je veux une victoire sur toutes les maladies, je veux une victoire sur la mort, ne pas vieillir, ne pas avoir mal. » La foi chrétienne, c'est plutôt une victoire sur le péché. Voilà, c'est là que se trouve le chrétien, victorieux sur le péché. Et quand nous traversons des moments difficiles dans la vie, notre foi est éprouvée, secouée, testée. J'ai toujours dans ma mémoire la parole de Jésus à l'apôtre Pierre, « M'aimes-tu ?» Quand les choses sont difficiles, le Christ nous dit « M'aimes-tu ?» suffisamment pour patienter, supporter. Lazare est mort aussi. Et vous avez remarqué que quand il est mort, les sœurs de Lazare ont fait un léger reproche à Jésus. On pourrait toujours faire des reproches quand quelqu'un part. Ils ont dit à Jésus, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est un léger reproche quand même. Il est mort parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Et dans la foule, il y avait des Juifs qui disaient, « Comment il a ouvert les yeux de l'aveugle ? Il aurait bien pu guérir son ami. » Voyez-vous, des reproches. On se fait parfois des reproches à soi-même aussi. J'aurais dû, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pas voulu que. On se reproche des paroles, des attitudes qu'on a eues, peut-être dans des moments difficiles, et ça a accablé en plus le malade. Mais j'aimerais vous parler de la consolation plus que de la souffrance. Mais d'abord, je pense qu'il faudrait que les souffrances qui viennent de nous soient enlevées. Il y a des souffrances que je ne peux pas enlever. Quand on perd quelqu'un, quand on passe par une maladie, un accident, une épreuve avec les enfants. Mais ce que je peux enlever, c'est les souffrances qui viendraient de mon caractère irritable. Enfin, je ne suis pas irritable, mais les souffrances qui viennent de soucis exagérés, qui viennent d'excès, les souffrances qui viennent de disputes qui peuvent nous plonger dans des regrets après. Ça, ces souffrances-là, il faudrait qu'on les enlève. Ce sont des souffrances anciennes, inutiles aujourd'hui. Il ne faut plus y revenir. L'apôtre dit que personne ne souffre comme s'introduisant dans les affaires des gens. C'est vrai que quand on s'introduit dans les affaires des gens, quand on se mêle de ce qui ne nous regarde pas, on finit par être mordu, on prend des coups. Il ne faut pas que nous ayons des souffrances de ce genre-là. Il faut plutôt que nous menions une vie paisible, en évitant certaines souffrances. Le Seigneur nous éduque pour cela, pour que nous ayons une vie paisible, en servant le Seigneur, sans nous charger de ce qui pourrait nous faire souffrir. Notre souffrance, plutôt, elle est la souffrance des autres. Nous souffrons à cause de la souffrance des autres. On appelle ça la sympathie. Ce mot, on l'a mal compris aujourd'hui. On dit quelqu'un, il est sympathique. Mais la sympathie, ça veut dire au départ souffrir ensemble. Et cette semaine, on a souffert ensemble. Et chaque semaine, on a des souffrances ensemble. Le mot compassion, souffrir avec l'autre, c'est là que se situe notre travail chrétien. Souffrir pour les autres, c'est un signe d'amour. C'est un signe d'unité. L'apôtre dit, quand un membre souffre, tout le corps souffre. Et quand on est une église unie, ce que nous faisons, nous essayons de faire de plus en plus, eh bien, nous souffrons quand quelqu'un souffre. C'est plutôt la miséricorde, parce que nous avons été transformés pour avoir un cœur bon, attentif, généreux. L'Église de Jérusalem a donc vécu une souffrance, c'était la mort du diacre Étienne, lapidé. Et l'Église de Jérusalem a pleuré à grand bruit. Il n'y a pas eu de miracle. Personne n'a protégé Étienne et le Christ n'a pas ressuscité Étienne. L'Église a pleuré, a pleuré, a pleuré et on a enterré Étienne. Et quelques temps plus tard, quelques semaines plus tard, une femme qui s'appelle Dorcas, inconnue, elle est tombée malade et elle est morte, et le Seigneur l'a ressuscitée. Voyez-vous comme c'est mystérieux. Le diacre Étienne, mort et enterré, cette femme inconnue, Dorcas, ressuscitée avec la prière de l'apôtre Pierre. Nous devons être capables de tout écouter, de tout comprendre, tous ces mystères. Le Christ, par exemple, n'a pas ressuscité Jean-Baptiste. Et pourtant, c'était son plus grand prophète. Il n'y a pas un homme aussi grand sur la terre, depuis que l'homme est homme, aussi grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été décapité et puis ses disciples l'ont enterré. Et quand Jésus a appris cette nouvelle, il est parti avec une barque et il s'est isolé un temps. Il a vécu un deuil dans l'isolement, loin de ses apôtres, loin de la foule, à l'écart, dans un lieu désert. Jésus n'a jamais donné un seul miracle à Jean-Baptiste. Voyez-vous, il faut connaître ces choses. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Mais nos souffrances personnelles, nous en avons tous, j'en ai bien sûr comme vous, ne doivent pas fermer nos cœurs à la souffrance des autres. Parce que parfois on peut dire, personne souffre comme moi, et ne pas considérer la souffrance des autres. Au contact de la souffrance, l'Église a un ministère à accomplir. C'est un ministère d'intercession, de prière. Priez les uns pour les autres. Délivre-nous du mal. L'Église qui ne prie pas devant la souffrance a totalement perdu la conscience de son appel. Nous avons un ministère de consolateur aussi. Nous l'avons lu tout à l'heure. Dieu nous console quand nous traversons des afflictions et avec cette consolation que nous avons, qui est une dose d'amour, nous puissions consoler les autres. Nous recevons pour donner, pour que les autres soient patients et supportent malgré tout leur tristesse, leur affliction. Mais nous les aurons aidés à porter leurs afflictions. C'est par nous que le Christ console. Il console aussi directement, il fait ce qu'il veut, il peut même ressusciter. Mais c'est beaucoup à travers nous que le Christ console l'Église, par notre présence attentive, douce, humble. Comment consoler? Pas de prêchi-prêcha. Pas de raconter tous les versets de la Bible. Il faut plutôt pleurer avec ceux qui pleurent. Il faut plutôt une présence. Je vois Jésus dans les deuils, où il est entré dans les maisons de deuil. Il n'a pas beaucoup parlé. Que ce soit le jeune homme de Naïn, que ce soit Lazare, que ce soit la fille de Jaïrus, Jésus ne parlait pas beaucoup. Il ne faisait pas des sermons pour consoler, mais il était présent. Tu es ici. L'Église de Thessalonique a connu un moment difficile où il y avait de la tourmente contre eux et puis des gens sont décédés. Et à Thessalonique, il y a eu un trouble dans l'Église. On s'est demandé si les gens qui mouraient verraient le retour de Jésus. On s'est demandé s'ils assisteraient à la grande apparition du Christ à la fin des temps. C'était des ignorances. Et l'ignorance aggrave nos souffrances. Quand on ne sait pas, on est inquiet, angoissé, tourmenté. Ou alors nous parlons selon nos pensées, les traditions, les impressions du monde. Nous parlons n'importe comment. Je pense qu'une grande consolation, c'est l'enseignement du Christ. C'est caler ses pensées d'après l'enseignement du Christ. Et Paul, il écrit à l'église de Thessalonique, « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, de ceux qui dorment. Parce que ceux qui sont déjà partis verront les premiers l'avènement du Christ. Et nous, nous partirons juste après eux. Et nous serons ensemble avec eux, à la rencontre du Seigneur. Mais c'est eux quand même. Je ne sais pas si c'est quelques heures de décalage ou quelques secondes, je ne sais pas. Mais il y a un mot en grec qui veut dire « presque après ». Nous partirons avec eux à la rencontre du Seigneur. L'enseignement est une consolation. On sait en qui nous croyons. Amen. Mais dire des vérités bibliques même ne console pas toujours. Si on avait dit à Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, « Mais pleurez pas, mes sœurs, Lazare souffre plus, il est heureux maintenant. » C'est vrai, mais ça ne console pas. C'est vrai, mais il y a des vérités qui ne consolent pas, comme avec Job, on lui a donné des vérités, mais qui n'étaient pas sa vérité, et ça ne le consolait pas de la mort de ses enfants. Quand Jésus a rencontré Marie de Magdala à sa résurrection, il ne lui a pas raconté les sermons, les textes bibliques, il lui a simplement dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu ?» Et après, Marie ne comprenait pas, et il l'a appelée « Marie ». Je ne peux pas mettre le ton, je ne sais pas quel ton il a pris. « Marie ». Et Jésus l'a consolée en l'appelant, et tout de suite, elle a reconnu que c'était Jésus qui n'était pas dans le tombeau, mais qui était évidemment ressuscité. Quand il l'a appelé, je pense que nous pouvons consoler en appelant au téléphone. Je pense que nous pouvons consoler en appelant les gens, en leur disant « Je pense à vous, je suis de tout cœur dans votre souffrance. » Mais rappelons-nous bien que on ne comprend pas tout le mystère de la souffrance qui est dans le malade. On ne comprend pas tout ce qu'il peut vivre. Ça, ce n'est pas possible de savoir ce qui se passe dans un cœur. Alors, il faut le respecter. Il ne faut pas le juger, il ne faut pas l'encadrer. Il est comme ça, il est comme ça. Et il faut surtout discerner, savoir que le Christ est en lui et il nous attend. Le Christ est dans chaque malade et il nous attend. C'est à moi que vous l'avez fait. Quand vous m'avez visité, quand vous m'avez donné à boire, à manger, c'est à moi, parce que j'étais dans celui qui était opprimé, éprouvé, et vous êtes venu vers moi. Il ne faut pas que nous fassions des gestes simplement pour le Christ. Un jour, quelqu'un m'a dit, je vous le donne, mais ce n'est pas à vous, je le donne, c'est au Christ. Je vous fais ceci, mais ce n'est pas pour vous, hein, c'est pour le Christ. Autrement dit, moi, je ne comptais pas. Je pense que c'est vraiment ce que nous faisons pour notre prochain qui permet d'agir, qui permet de toucher le cœur du Christ. Si je le fais vraiment pour cette personne malade, pas en disant, ce n'est pas pour elle que je le fais, c'est pour le Christ. Mais si je le fais vraiment pour elle, alors je le fais pour le Christ. Apprenons à bien faire attention de ne pas être supraspirituel. C'est pas vous qui m'intéressez, mais c'est je fais ça pour le Christ. Non, c'est vous qui m'intéressez. Vous qui êtes malade, vous qui ne pouvez plus respirer, c'est pour vous que je le fais. Mais en le faisant pour vous, je le fais pour le Christ. Amen. On a du travail. La consolation, elle demande de l'humilité. Il ne faut pas se croire supérieur parce que nous sommes passés aussi, nous, par une épreuve. Vous savez, je peux vous comprendre, moi aussi j'ai connu ça, moi aussi j'ai eu des rhumes, moi aussi j'ai connu ça, moi aussi. Même si nous sommes passés par des choses très difficiles, mais chaque cœur a ses propres chagrins. Chaque personne a sa propre histoire et on ne peut pas comprendre tout de quelqu'un. Je pense que notre douceur et notre patience consoleront les autres. Notre douceur et notre patience. Sans jamais nous habituer à la souffrance des autres. Jamais nous habituer. Et ne jamais penser que le malade il finit par s'habituer à la souffrance. On ne s'habitue pas à la souffrance. Si nous finissons par nous habituer à la souffrance de cette personne, alors on a un peu de lassitude, on écoute moins, et puis notre miséricorde, elle commence à disparaître. Et ce sera une souffrance pour le malade. Qui dira, en fait, je compte plus beaucoup pour lui. Il ne prend pas vraiment en compte ce que je vis. Il se fatigue de moi. Ma maladie n'a pas d'importance pour lui. Voyez-vous, ça demande beaucoup d'attention, beaucoup d'écoute de Dieu, mais d'écoute du malade, d'écoute de son cœur. Tout ça, c'est important. Si nous sommes distants, comme le sacrificateur en passant devant le pauvre blessé sur le chemin de Jéricho, il était distant, il ne s'est pas sali les mains. Le Lévite, cet homme qui expliquait la parole de Dieu en passant, il ne s'est pas sali les mains, il a laissé le blessé dans son sang. Il ne faut pas de distance, savoir prendre du temps, donner du temps, perdre du temps. Il faut avoir, je pense, comme le Samaritain, de la miséricorde pour tout le monde. Mais aujourd'hui, il ne faut pas attendre que les gens soient dans un lit d'hôpital pour avoir de la miséricorde. Il faut de la miséricorde parce que nous ne connaissons pas les souffrances cachées des gens. Apparemment, il est bien. Il embrase, il nous prend. Au fond de son cœur, il est peut-être dans un foyer brisé. Ses enfants sont peut-être en voie de perdition. On ne sait pas. Voyez-vous, il y a des gens qui paraissent comme ça vivants, mais qui sont à demi-morts. C'est pourquoi nous, il faut que, et qu'ils ne le montrent pas, bien sûr, ils ne montrent pas, mais nous, il faut que nous soyons miséricordieux. Parce qu'il faut que nous aidions les gens à être arrivés auprès du Seigneur irréprochables. Je ne travaille pas que pour moi, que pour être irréprochable quand j'arriverai là-haut. Mais je veux travailler aussi pour les autres, pour qu'ils arrivent là-haut irréprochables. Il ne faut pas que nous disions, du moment que je suis sauvé, non, il faut que les autres arrivent aussi. Donc il faut que nous soyons miséricordieux pour encourager. Sinon, des gens arriveront dans le ciel complètement pauvres, démolis, tristes, parce que nous n'aurons pas pris soin d'eux. Ils seront sauvés au travers du feu, de justesse. Et le Seigneur nous dira, qu'as-tu fait de ton frère ? Qu'as-tu fait de ta sœur ? C'est toute la vie. On n'attend pas d'être au dernier souffle. Toute la vie, on doit s'aimer, on doit s'encourager, on doit relativiser des choses pour qu'on arrive tous là-haut, joyeux, irréprochables. Je crois qu'avant les épreuves que nous traverserons encore, ce sera moi demain, et vous, etc. Eh bien, je pense qu'il faut se chérir, je reprends l'apôtre Paul dans les Philippiens, il faut se chérir avec la tendresse de Jésus-Christ. Il faut avoir de la tendresse. Il faut savoir pardonner, ne plus y revenir. Alors le Samaritain, il s'est arrêté, vous le savez, hein. Le sacrificateur juif est passé, le Lévite est passé. Le Samaritain s'est arrêté devant le blessé du chemin. Quelle leçon! Quelle leçon pour moi et pour vous! Quelle leçon que ce païen, un Samaritain, ce n'est pas un juif, on disait à l'époque, un païen. Que ce païen qui s'arrête sur le blessé de la vie. Quelle leçon quand on voit des païens qui se penchent sur les blessés de l'existence, alors que parfois nous sommes dans notre bulle et on pense que nous sommes parfaits. Quelle leçon! Aujourd'hui, le bon samaritain, nous l'adulons. Oh, il n'y a pas mieux que le bon samaritain. Aujourd'hui, nous en reconnaissons toutes les valeurs. Il est pour nous une image de Jésus-Christ. Il porte en lui la charité de Jésus-Christ. Oui, mais c'est un païen. C'est un païen. Et nous, aujourd'hui, on ne reconnaît pas les valeurs des païens. On dit, ils sont rien. Je prie pour tous ceux qui travaillent parmi les endeuillés. Nous avions le temps de mémoire hier au crématorium. Toujours des larmes et beaucoup de tendresse à donner. Je prie pour ces associations qui travaillent parmi les enfants endeuillés, les parents endeuillés, et parmi les malades, et parmi les handicapés, les personnes âgées. Je pense qu'il y a des Samaritains aujourd'hui. Il faut qu'on y soit, mais ils y sont sur le terrain pour le reconnaître. Alors, je vous en reparlerai longtemps. Ça fait partie un peu de ce que je vis, la consolation. Il faut du tact. Il ne faut pas une sympathie protectrice. « Oh, comme je vous plains, comme je vous plains !» Ça irrite et ça ferme les gens. Il faut beaucoup de tact. Vous savez, c'est vrai pour moi, pour vous aussi, nous avons tous vécu auprès de gens souffrants sans les comprendre, sans les apaiser vraiment, sans les rassurer vraiment, sans les calmer. Et aujourd'hui, quand on y pense, c'est une douleur pour nous. On se dit, mais j'ai raté moi-même, vous, nous avons manqué quelque chose avec un tel, une telle, on n'a pas été présent, on a été cassant, tyrannique. Les versets, c'est les versets. Mais eux étaient là, incapables de nous comprendre. Le Samaritain, il n'a pas parlé, il a mis de l'huile, il a mis du vin, il l'a mis sur sa monture et il l'a ramené à la maison, à l'hôtellerie. Je veux encore vous dire que nos expériences de souffrance ne sont pas forcément une consolation pour les autres. Des gens parfois disent, mais moi j'ai beaucoup souffert, vous savez. Vous, vous souffrez, mais si vous saviez ce que j'ai souffert, ça ne console pas les autres. On n'a pas parlé de nous. On a à s'oublier soi-même. Je pense que devant la souffrance, il faut aimer et demander à Dieu la force de nous oublier nous-mêmes. Penser aux autres. Je pense que nous pouvons consoler que si nous avons été nous-mêmes consolés et nous-mêmes pardonnés. Je pense qu'il faut avoir reçu la consolation pour pouvoir vraiment bien la donner. et l'expérience du pardon. Alors, pas de paroles superficielles, pas de paroles faciles. T'as qu'à prier, ça c'est facile. Et des gens m'ont dit, je ne peux plus prier, parce que les pensées n'arrivent plus, parce que j'ai plus la force de réfléchir, parce que j'ai plus la force de formuler, parce que je ne sais plus où j'en suis. Pas de paroles faciles, mais que leur souffrance devienne notre souffrance. Que nous puissions souffrir de leur souffrance. Porter les fardeaux les uns des autres. Porter les fardeaux les uns des autres. Alors, je conclus. Beaucoup d'écoute, beaucoup de tendresse silencieuse. Je pense que notre savoir biblique, notre science biblique, toute notre instruction a moins de force que l'amour. Quand j'allais voir Catherine, je ne lui parlais pas de tout ce que je savais, mais j'étais à côté d'elle pour écouter toutes ses paroles. Notre savoir a moins de force que notre amour, parce que notre amour est un signe de la présence de Jésus en nous. Amen. C'est un signe de la présence de Jésus en nous. Bon, j'ai fini de parler. Que Dieu nous bénisse et nous garde et console et soit avec nous et soyons des consolateurs. Amen.